Bonjour, dans un instant va commencer l'émission Dans mon tiroir. Pendant une heure, c'est vous qui avez le pouvoir grâce au site radio-g.fr. En effet, à tout moment, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton stop situé sur le site radio-g.fr. Si une chronique vous ennuie ou que vous la trouvez trop longue, stoppez-la de chez vous avec un simple clic. Dans le studio, nous entendrons alors ce jingle. On devra alors changer de sujet. Au contraire, si le sujet est intéressant et que le chroniqueur peut le finir, il aura droit à ça.
C'était vraiment très intéressant.
C'est donc vous qui, dans un instant, allez prendre le pouvoir. Pendant que l'équipe s'installe, rendez-vous de suite sur le site radio-g.fr et cliquez sur le bouton qui vous invite au vote. Vous pouvez aussi aller sur le chat pour parler avec nous, anonymement et simplement pendant l'émission. Nous voyons en direct vos messages. Prêt à prendre le pouvoir, c'est à vous de jouer sur radio-g.fr.
C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant.
L'équipe de Dans mon tiroir est en...
Bonsoir et bienvenue dans Mon tiroir, l'émission qui a des choses à vous dire. Par contre, sont-elles toutes intéressantes? C'est ce qu'on va découvrir ce soir avec cette émission interactive où vous donnez votre avis de chez vous en temps réel sur le site radio-g.fr. 9e émission en direct. Bonsoir Joe qui réalise cette émission.
Bonsoir.
Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Bonsoir Sandra.
Bonsoir.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Et puis, on a deux personnes qui sont là. Alors, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît?
Jonathan.
Jonathan. Et dans le public, votre prénom? Antoine, enchanté. Alors... Donc voilà. Peut-être qu'ils parleront tout à l'heure, on verra, hein, on sait pas. Hein. Allez. Alors, vous avez vos smartphones, là, vous avez ouvert tout, vous êtes tous sur la page des votes, radio-g.fr, parce que je vous rappelle que vous pouvez aussi voter, vous, ici, pour, faire arrêter vos petits camarades si jamais leur chronique est trop longue. Voilà, je vois tous les smartphones qui sont, tout le monde est prêt. Donc c'est parfait, voici, bienvenue dans vos tiroirs. Allez, on commence, on va faire un petit reset pour partir à zéro. Et c'est parti pour la première chronique, c'est Florian qui s'y colle.
Ok.
Ok.
Je savais pas que j'allais commencer.
Si, il commence à appuyer sur stop. Tu t'auto-stop. Hein.
Je vais un peu plomber l'ambiance. Bon, alors...
Oh, encore des morts? Parce que la dernière fois, t'as parlé des morts, hein, quand même. Hein. Et la fois d'avant, t'as encore parlé des morts.
Oui, ça peut être en lien avec des morts, effectivement.
Okay, super.
Mais c'est une façon de voir les choses. Mais non, on va essayer de rester positif. Alors moi, dans mon tiroir, cette semaine, j'ai retrouvé un ruban rouge, un petit ruban rouge.
Ouais.
Vous savez ça, à quoi ça peut correspondre, le petit ruban rouge?
C'est le contre le sida, il y avait ça aussi.
Tout à fait, voilà.
Ouais. C'est le 1er décembre.
C'est vrai, le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida.
Tout à fait.
Et donc, je vous ai ressorti un petit peu, du coup, les chiffres de cette année.
D'accord.
Voilà.
Le 2, le 3, le 6 et le 18.
Et le numéro complémentaire.
Oui, c'est ça. Faites votre loto, il va tout sortir là. Hein.
Alors du coup, c'est Santé publique France qui vient de sortir les chiffres de l'épidémie pour 2022 du coup. Il y a toujours une année de...
Oui.
Enfin, c'est toujours sur l'année...
Pas forcément, on ne sait pas encore.
Forcément. Alors, c'est des chiffres qui sont des estimations parce qu'en fait, il n'y a pas toujours les remontées efficaces... Et en temps réel, des nouvelles découvertes de contamination au VIH, au dépistage. On est à peu près il y a 57% à peu près de chiffres réels. Et en fait, le reste, c'est des estimations.
Mais d'une année à l'autre, on voit que ça correspond à peu près à la réalité.
Oui, c'est exactement. C'est la même méthode de tous les ans. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment des chiffres qui ont un vrai sens. Alors, pour 2022, il y a eu entre 4200 et 5700 découvertes de séropositivité au VIH.
D'accord.
Des personnes qui ont été testées et donc dépistées positives au VIH.
Alors, nous, ça ne nous parle pas du tout parce qu'on est quand même 6 millions, 60 millions. Est-ce que.
Alors.
C'est beaucoup, pas beaucoup.
Alors, la fourchette, du coup, elle est en baisse par rapport à 2012, par exemple. Donc, elle est en baisse d'environ 11 à 21%. Donc, entre 10 et 20% de baisse par rapport à 2012. Voilà. Après, on est en légère augmentation par rapport aux chiffres de l'année dernière, puisque on avait eu une baisse en 2020 du dépistage, puisqu'il y avait eu le Covid. Et donc, il y avait pratiquement plus de dépistage. En tout cas, très peu. En tout cas, les chiffres avaient été très 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 en baisse. Et donc du coup, on est revenu finalement à un niveau... Alors, en termes de nombre de dépistages réalisés, on est revenu à un niveau d'avant 2019.
Okay.
Donc d'avant du coup le Covid. Et par contre, en termes de découvertes, là, on est quand même en baisse par rapport à 2019, hein, quand même. Mais du coup, on est en hausse par rapport à l'année dernière.
Donc il faut remonter un petit peu les dépistages, ce serait bien.
Oui, les dépistages, il faut toujours effectivement rester... il faut toujours en faire.
Même si ça fait remonter les chiffres...
C'est pas grave.
C'est pas grave. Au moins, quand on le sait, c'est mieux.
Plus on trouve les personnes séropos, plus elles le savent et plus elles prennent soin de leur santé au plus tôt, du coup, et mieux c'est pour elles et pour tout le monde, au final.
Ok.
Voilà, sinon, par rapport à la proportion, donc en fait, il y a 54% des découvertes sont des personnes hétérosexuelles.
Oui.
Dont 38% qui sont nés à l'étranger, 41% sont des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, dont 27% sont nés à l'étranger. Et
j'ai
ensuite,
trop de chiffres, là, je suis un peu perdu. Donc 54, les hétéros, c'était 54, et puis les homos, c'est combien?
41.
Alors du coup, les autres, c'est quoi? Ils ont des relations avec quoi?
Non, mais c'est qu'après.
Parce qu'on fait pas 100% là.
Après, il y a des non-réponses aussi. Il y a des fois, on sait pas dire en fait. Parce que les gens, ils répondent, ils sont pas obligés de répondre non plus.
D'accord, ok.
Donc voilà. Donc en fait, il y a 67% d'hommes cis qui sont concernés. C'est une nouvelle découverte.
Cis, ça veut dire quoi, cis?
Et 31% de femmes, ils sont pas trans. Ils sont cis. Ils sont cisgenres.
Ils sont garçons classiques, filles classiques, c'est ça? Vous allez me dire ça, mais enfin, vous, avec vos termes, on est un peu perdu. Hein,
ils se reconnaissent dans
le genre.
En fait, on leur a assigné un sexe à la naissance homme et ils se reconnaissent dans ce genre homme.
D'accord.
Voilà.
Ok. Bon.
Donc 67% d'hommes, 31% de femmes, et donc voilà. Donc la plupart quand même sont des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Il faut quand même pas l'oublier. En termes d'âge, parce que vous allez me demander, oui, mais les jeunes, tout ça, tout ça.
Oui, alors on va le faire. Oui, mais les jeunes,
Les jeunes. Ah bah alors, les jeunes sont concernés, oui, mais seulement s'ils appartiennent aux personnes qui ont des relations avec des hommes. Donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Donc les jeunes gays sont concernés. Les jeunes filles nées à l'étranger.
Ouais.
Et voilà.
Donc les hétéros,
mais
moins,
pas les jeunes de façon générale.
D'accord.
Jeunes relations hétérosexuelles, les risques sont quand même très faibles.
D'accord. Parce qu'ils font attention ou parce qu'ils ont moins de partenaires?
Parce qu'ils sont pas concernés par l'épidémie. L'épidémie est pas là en fait.
D'accord. C'est parce qu'ils ont moins de partenaires. Appelle un chat un chat.
Forcément. Oui. Alors forcément, plus tu multiplies les partenaires et plus t'as de risques de d'être contaminé.
Une relation, c'est une relation, hein, qu'elle soit d'un côté ou
l'autre. Par toutes les autres IST de toute façon. Mais voilà. Mais si t'appartiens au public les plus exposés, t'as plus de risques.
Ok. Alors, t'as un petit truc bien sympa quand
un
même à
joyeux.
Dire, plus joyeux. Est-ce que le milieu de la recherche,
oui,
il y a des choses mieux, il y a tout ça, parce que tu nous plombes.
Ce qui est important de dire, c'est quand même que les découvertes sont en baisse par rapport au début de l'épidémie, quand même,
oui.
Et par rapport à il y a 10 ans. C'est en nette baisse, notamment aussi par rapport à. Parce que certains hommes prennent la PrEP,
oui.
Donc le traitement préventif en fait au VIH. Avant un rapport sexuel, c'est un cachet avant le rapport sexuel. Je le fais vite, hein, c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas.
Oui, voilà. On va pas y passer l'émission non
donc
plus.
Donc ça joue quand même grandement. On a aujourd'hui maintenant du recul par rapport à ça. Donc ça joue grandement, puisque chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, la baisse est quand même de 32%.
Donc c'est bien. J'allais dire c'est positif, mais c'est pas le mot. C'est bien. C'est très bien.
Alors, en tout cas, ça fonctionne.
OK. Donc continuez à mettre des capotes ou à prendre la PrEP et continuez à
vous faire dépister aussi. Voilà.
Voilà.
Et puis sinon, oui, positif, c'est que... Alors, il n'y a toujours pas de vaccin, mais ça, on en est très, 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 très loin du vaccin. Le virus du VIH, il est assez compliqué. Donc, du coup, ce n'est pas parce qu'on a trouvé un vaccin rapide pour le Covid que, du coup, ça va arriver vite pour le VIH.
Peut-être qu'avec les AI,
le VIH.
Les intelligences artificielles,
bien sûr,
peut-être
bien sûr,
qu'on en trouvera.
Oui.
Il faut être, faut y croire, faut y croire.
Ou un virus artificiel.
Mais en tout cas, en France, on n'en meurt plus. Mais dans les autres pays qui n'ont pas accès à tous les traitements.
Alors en France, il y a toujours des gens qui meurent du sida, la phase
ouais.
La plus compliquée. Mais alors c'est très très faible. Du coup,
d'accord.
Aujourd'hui, effectivement, il y a.
Mais c'est pas pour ça qu'il faut se relâcher.
C'est pas pour ça qu'il faut se relâcher. Et après, voilà, si vous.
Parce que le traitement est quand même très contraignant. On est d'accord.
Alors c'est toujours de toute façon un traitement à vie et journalier. Même si aujourd'hui, il y a quand même des allègements qui se font.
Okay.
Sur ce côté-là, et la recherche avance sur ce côté-là, mais du coup, oui, ça reste.
Bon,
comment se situe par rapport à d'autres pays occidentaux, en fait? On est à la traîne, je sais pas. Non, mais.
Alors ça, j'ai pas les infos. Mais non, par rapport au reste de l'Europe, la France est pas mieux ou moins bien placé que les autres. Ouais. Après, si, on sait quand même, en Europe de l'Est, l'épidémie est quand même assez conséquente. Ouais. La Russie, nous n'avons pas de chiffres, puisque tout est...
Bah, l'homosexualité n'existe pas là-bas, je le rappelle. Donc, du coup, il n'y a pas de sida là-bas non plus.
Donc, du coup, il n'y a pas d'infos. Et par rapport au monde, après, si, en Asie, c'est pareil. En Asie, l'épidémie, on sait qu'elle est assez importante, mais c'est pareil, les chiffres sont assez lacunaires, donc c'est difficile.
Et puis,
bien
sûr, l'Afrique aussi.
Et en Afrique, effectivement, là, c'est assez important.
Bon, écoute, c'était quand même compliqué à te stopper sur ton lancée sur ça. En tout cas, c'était bien de le dire. Merci, on a
50%. C'était vraiment très
intéressant. Allez. 50% qu'on stoppait.
Ouais, quand même. Allez, on continue avec Joe.
Ouais, alors moi, je vais commencer par un truc chiant de technique. Mettez vos casques, s'il vous plaît, parce qu'en fait, si je vous bloque, bah vous pourrez pas le savoir, donc vous allez rester 10 minutes à parler. Bah, tu n'as pas de cast, effectivement, je te dirai si tu es stoppé. Mais voilà, merci, je fais mon truc chiant de technique et je commence ma chronique. J'ai retrouvé récemment dans mon tiroir un prospectus sur le logement pour jeunes. Alors oui, en soi c'est chiant, mais ça m'a fait penser à un film que j'ai vu récemment, du coup, qui s'appelle L'Arche de Noé. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Pas du tout.
Oui.
L'expert un cinéma, évidemment.
Valérie Le Mercier.
Tout à fait.
C'est un peu, on parle pas du refuge, mais c'est un peu.
Si, en soi, c'est pour ça que ouais. Bah, du coup j'ai trouvé le prospectus sur le logement, c'est un lien. Donc c'est un film qui a été réalisé par Brian Marciano, donc qui est sorti en novembre là 2023. Donc il y a bien sûr Valérie Le Mercier, et en fait ça raconte l'histoire d'une asso qui aide des jeunes LGBT en l'occurrence à se reconstruire après avoir été mis à la porte par leur famille. Et pour trouver un logement et si possible un travail. Alors en soi, le film est pas mauvais. Pour moi, il y a des bonnes idées, mais malheureusement, j'étais un petit peu déçu. Donc si ça intéresse des gens de le voir, je vais pas spoiler. Mais il y a des choses que je trouve un petit peu dommage, parce qu'il y avait des très bonnes idées qui n'ont pas été poussées assez loin dans leur analyse. Il y a beaucoup de caricatures aussi, parce que...
Ça.
Ouais, on arrive beaucoup sur le genre foyer où c'est un petit peu des cassos, etc. Et c'est un petit peu dommage de tout de suite montrer ça. Ils sont très très extravagants et tout. Et alors c'est, je trouve, très cliché de la culture LGBT, enfin la culture du domaine LGBT. Même si il y a des bonnes choses, hein, parce que par exemple ça met en lumière certains problèmes du système, notamment sur la loi, où il y a des jeunes qui doivent être relogés en urgence et il y a pas de place. Donc du coup, bah, on les refout dehors, alors que techniquement, ils ont assez de lits, mais ils n'ont pas le droit, la capacité de certaines choses et tout. Ça va amener certains jeunes, alors je vais pas spoiler, mais à complètement péter les plombs, à se dire, mais attendez, c'est juste pas possible, parce qu'il y a la place. On leur a dit dans la soupe, ouais, mais c'est bon, t'inquiète pas, humainement, hein, on leur dit, vas-y, c'est bon, ça va le faire. Et finalement, bah, quand ils passent devant une juge, ils lui disent, bah non, en fait, tu vas être placé dans un foyer qui n'a rien à voir, et il sera loin d'un environnement qu'il connaît. Et en fait, bah, c'est fou pour le jeune qui a déjà été rejeté par sa famille. Et là, une famille qui est potentiellement qui allait l'accepter, bah du coup, il peut pas aller vers eux. Donc voilà, ça met en lumière des problématiques comme ça. Donc c'est très intéressant. Mais voilà, comme je vous dis, il y a pas mal de choses qui sont pour moi pas assez poussées, parce qu'à la fin, on finit quand même sur une note assez je vais pas dire mauvaise ou bonne, c'est juste moyenne. Tout le monde n'a pas eu vraiment de fin, et il y a un petit peu ce côté on ne termine pas l'histoire qu'on a commencé à vous raconter. Donc bon, j'ai été un petit peu déçu de ça, mais en l'occurrence, ça reste.
Donc du coup, c'est un film français, c'est ça?
Par contre, oui.
Voilà, j'ai bien compris.
Alors,
j'aurais pas dit ça. Déjà avec Valérie Lemercier, ça me laisse un peu.
Alors, pour le coup, est-ce qu'elle revient dans son époque?
Je suis désolé, moi j'aime beaucoup Valérie Lemercier, mais là, c'est vrai qu'elle a pas un rôle évident du tout, parce que c'est elle qui gère l'assaut, là, en l'occurrence, et elle a parfois le rôle de méchante. Donc bon. Je peux pas, mais parfois, voilà, sur le film, elle a okay. le rôle.
Très donc, bien.
Voilà.
Bon, bah écoute, allez, tu peux te mettre un jingle, on y va.
Oh là là, intéressant.
Allez, on poursuit maintenant avec Sandra.
Alors
Sandra, tu nous parles quoi? Des homosexuels, du sida,
il y a une thématique de la mort, LGBT,
des drag queens. Non, parce que là, c'est Tonix Live ce soir. Ou quoi ça?
Je vais parler aux nostalgiques, en fait.
Ah.
Donc voilà, donc c'est peut-être. Voilà, c'est gay quand même. Donc j'ai trouvé dans mon
c'est gay quand même, d'accord, ok.
Oui, j'ai
vu.
J'ai trouvé dans mon tiroir un petit objet, donc, qu'on accroche sur le col de la veste, de son jean ou sur un sac à dos. Vous devinez?
Le pins?
Oui, voilà, c'est le pins. Donc je vais, comme je disais, c'est plutôt nostalgique. Le pins est l'ancêtre de la broche, apparu au XVIIIe siècle, et du badge, qui a connu un succès phénoménal dans les années 70. Le pin, c'était d'abord un insigne militaire ou de décoration qui date de la Première Guerre mondiale quand même. Et en fait, à la Première Guerre mondiale, on appelait ça une épingle ou une épinglette. Ça se représentait, c'était comme une épingle, en fait, on va dire, où vous pouvez fixer des médailles. Et donc, ah oui, c'est, on va dire,
c'était une reconnaissance, c'était pas.
C'est ça, oui. On peut penser à la Légion d'honneur aussi. Mmh. Voilà. Donc, c'était des insignes. Et en 1956, donc voilà, on passe de la Première Guerre mondiale à 1956, la station radio Europe 1 lance ses propres pins publicitaires. Ça représente un 1, en fait. Le chiffre 1, tout simplement. Mm-hmm. Mais en fait, comme c'est en édition limitée, ça ne va pas être diffusé. Il ne va pas y avoir énormément de pins d'Europe 1. Donc ça ne suffira pas à en faire un phénomène de mode. En fait, c'est le tournoi de Roland-Garros en 1987 qui lance la mode. Car là, il y a des milliers de pins qui sont distribués. Donc tout le monde s'arrache en fait les pins de Roland-Garros.
Ça fait mal, hein.
Oui, c'est vrai que s'arracher un pin, ça peut faire mal.
Puis les pins des Jeux Olympiques d'hiver en 1992. Donc en fait, c'est surtout le sport en fait finalement qui a lancé les pins.
Il y avait quoi? C'était marqué Jeux Olympiques dessus ou c'était les athlètes qui étaient dessus? Non, où il y avait plusieurs types.
Ouais, c'est
avait...
ça. Bah après, il y a aussi
les mascottes.
Vous savez,
oui, les mascottes. Les... Ouais, d'accord.
C'était quoi, Lillehammer?
Les mascottes, ah, puis aussi. C'est... Non, c'est surtout aussi les.
Albert Ville 92.
Bah les, bah c'est toutes les pubs aussi, les banques, oui, et tout aussi, ça, d'accord. qui représentaient en fait le tournoi. Donc c'est une mode qui voit son apogée vers les années fin 80, début années 90. Et le pins, il est créé alors par la maison Artus Bertrand. Et c'est ainsi qu'on peut reconnaître un pins de valeur, en fait. Derrière, il y a marqué soit Artus Bertrand, soit pour les pins qui représentent...
Rien à voir avec celui qui prend de là-haut.
Ah. Bah non. Et pour les pins de bande dessinée, c'est plutôt Démons et Merveilles, par exemple.
D'accord.
Voilà. Donc si c'est inscrit ça derrière, ça veut dire que c'est déjà un pins collector. Voilà. Donc c'est là que, donc, on va dire, les pins suscitent un véritable engouement. On l'aime, le pins, car c'est un petit bijou qu'on peut fixer n'importe où par un pic qui traverse le tissu et se bloque par un papillon. Ça s'appelle un papillon.
Alors attention, si on sait faire les seins, hein, ça peut être dangereux. Bang.
Le collectionneur de pins est un philopiniste. Le collectionneur de pins, c'est un philopiniste.
Ah ouais, voilà. C'est pas terrible.
Non, c'est pourquoi philopiniste.
Philopiniste.
Philopiniste. Ouais. Rien à voir avec ta chronique, Florian. Ne t'excite pas.
Et donc, il y a les pins publicitaires, les pins événementiels. Les pins d'embellissement, ça ressemble aux broches, c'est-à-dire ça représente par thème les animaux, voilà, les fleurs.
Il y en avait des parlants avec TF1.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison.
On appuyait dessus,
ça
faisait.
Oui, c'est vrai.
Comme les guignols, on entendait les voix.
D'ailleurs, oui.
Des lumineux aussi.
C'est vrai. Oui, des lumineux qui clignent, oui.
Et les pins de maintenant, qui sont assez prisés, c'est les pins de Walt Disney. Dans les années 2000, là, il y a eu beaucoup de pins en édition limitée.
Mmh. Il y a les pins de Radio G, hein, on a toute une collection de pins aussi.
On a plein.
Et du coup, il y a ceux qui sont assez prisés, ça s'appelle des Disney Pièces of History de Walt Disney.
Yeah.
Donc on sait que le pins n'est plus vraiment à la mode, en fait, mais il demeure sur le marché. Et en 2003, il y a eu un salon international du pins en France. Voilà. Donc moi je dis, pins un jour, pins toujours.
Tout à fait. Voilà. Caro, le pins, c'est de la mode.
Oh, c'est sympa, ouais.
Ouais.
Toujours, ouais, ça habille un petit
là,
peu.
Là, en ce moment, sur les crocs, c'est ce qui se fait.
Ah oui, ouais, les espèces
on pince
de...
les crocs maintenant.
Ouais, c'est vrai. Bon, bah déjà, pins plus crocs,
oui, c'est
il y a trop de
ça
trucs.
Ça fait un peu beaucoup.
Ouais, faut pas. De toute façon, la crocs, faut pas trop.
Non.
Pas du tout, même.
Mais vous aviez des pins, vous en avez eu, vous, sur votre tatou tan?
Bah oui, Mickey
ça,
et tout.
Quand j'étais
petit,
j'avais un sac.
Ouais, j'en ai
sur les sacs, oui, les sacs d'école, on en mettait plein, etc. Est-ce que ça revient un petit peu à la mode ou
Moi, je pense
toujours,
un petit peu, mais je sais pas, j'ai l'impression.
Ah non, mais à l'époque, c'était vraiment l'engouement. Les sacs pesaient 15 tonnes parce qu'il y avait 40 000 pins dessus. Maintenant, c'est plus léger quand même. On voit moins quand même.
Ouais, au lycée, quand t'es un peu à ta période, un peu rebelle, tu mets le A d'anarchie.
Puis il y a même des petites machines pour fabriquer son propre pins.
Ça, c'est vrai, c'est sympa.
Pour les enfants. Très bien. En tout cas, merci Sandra. Bah, c'est passé.
C'est vraiment très intéressant.
Allez, on poursuit maintenant avec Olivier.
Oui, alors dans mon tiroir, j'ai découvert un vieux bouquin que j'avais sur l'histoire antique.
Alors,
vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire antique? Non, parce que dans ce bouquin, il parlait des 7 merveilles du monde de l'Antiquité.
Elles sont autour de la table.
Oui, alors... Non, c'est désolé, beau, Caro, tu n'es pas une merveille.
Quoi? Mais comment tu parles à Caro, toi?
Ni Bruno, d'ailleurs, tous les scorpions ne sont pas des merveilles.
Non, oh, non,
alors, ça, c'est pire que
non, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Je règle mes comptes.
Bah, je vois ça.
Il y a un problème avec les scorpions, là.
Mais c'est honteux.
Scorpion,
c'est quoi cette discrimination?
Scorpion. Bon, bref.
Oh, les Gémeaux, c'est pas mieux.
Oui, c'est guère mieux. Non, mais j'ai voulu savoir, en fait, quelles étaient les sept merveilles du monde actuel, du monde moderne.
Tu veux qu'on découvre ou...
Et il y a eu un vote qui a été fait en 2007. C'était un milliardaire suisse qui avait proposé de voter aux internautes de voter. Et il y a eu l'élection de sept merveilles en 2007.
On va voir.
Elles existent encore. Alors, d'après vous, qu'est-ce que vous mettriez comme sept merveilles du monde? Alors, ce ne sont que des monuments. Monuments historiques. C'est pas des espèces naturelles, c'est pas des paysages.
Et désolé les garçons, vous pouvez pas répondre ma bite.
Mais qui... Alors on est en direct, Caro.
Pardon,
le Taj Mahal.
Alors voilà, allez, le Taj Mahal, c'est bien.
Le Taj Mahal.
C'est que des bâtiments qui existent encore.
Oui.
D'accord, donc c'est pas la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple, ça, on peut pas.
C'est les
La tour de Pise, escalier.
Non,
il y est pas.
La muraille de Chine.
Alors oui, la muraille de Chine.
Florian dit la Tour Eiffel.
Non, la Tour Eiffel, non, elle n'a pas été sélectionnée. Ah. Il n'y a qu'un seul monument qui est en Europe et qui est en Italie, qui a été sélectionné.
Le Vatican.
Ouais,
Saint-Pierre.
Alors,
le Colisée.
Le Colisée, bien. Après, on va... Alors, il y en a beaucoup en Amérique du Sud. Il y en a trois en Amérique du Sud. Amérique centrale et Amérique du Sud.
Pas le truc aztèque.
Le Christ Rédempteur,
oui,
il a pour l'Amérique du Sud. Donc.
Oui, alors c'est pas trop aztèque, c'est les Mayas. C'est le site de Chichen Itza, c'est les fameuses pyramides Mayas qui sont dans la presqu'île du Yucatan au Mexique. Il y a aussi au Pérou, le fameux site.
On est à combien là? On est à
Machu Picchu.
Non, toujours pas.
Machu Picchu.
Machu Picchu. Le plus récent, c'est au Brésil. C'est à Rio de Janeiro.
C'est le Christ, le Christ Rédempteur.
Et puis quelque chose qui est extraordinaire, moi j'ai toujours rêvé d'aller là-bas, c'est au Moyen-Orient.
Grand Zéro? Ah non, c'est.
Non. Alors c'est un pays, on peut encore le visiter. C'est entre le Liban, Israël, Syrie.
En Égypte?
Non, c'est en Jordanie. Et c'est.
Ah, Petra?
Ah oui, c'est ça.
On voit dans Indiana Jones.
Petra?
Oui, Petra.
Oui, Petra.
Ouais, le site de Petra. Voilà,
d'accord.
Effectivement.
Ah, il paraît que c'est magnifique, ouais.
Oui, c'est magnifique. Monsieur, c'est pas le moment d'y aller, mais c'est magnifique, ouais.
Moi, j'aurais retenu quand même le Mont Saint-Michel. Moi, je trouve ça. C'est...
Oh non! Mais non! Le Taj Mahal, le Mont
Saint-Michel. Bah, si, il y a des touristes du monde entier qui viennent voir le Mont Saint-Michel.
Bah oui. Non,
mais quand même.
Et nous, on a l'habitude, mais c'est.
Tu montes 50 marches, tu montes.
Un des monuments préférés, c'est quand même aussi le. Alors, c'est un pont, c'est le Golden Gate à San Francisco. Je trouve toujours extraordinaire. Voilà. J'étais surpris que ce soit pas dans la liste.
Mais donc, les gens décident de ça.
Alors, il y avait eu 20 monuments sélectionnés que je vous dirais pas, mais dans les 20, ils ont retenu les 7. Alors, les Asiatiques ont beaucoup voté. Donc c'est pour ça que non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'on a eu.
Oui, mais nous on pouvait voter. Donc qui votait?
Oui, tout le monde pouvait voter. Fallait payer. Ça devait être 10-15 euros. Ah. Mais tout le monde pouvait voter pour
c'est comme un Starac quoi.
On n'a pas été informé. Hein.
Non, je ne savais pas. T'aurais dû faire ta chronique avant pour qu'on puisse voter.
Oui.
Très bien.
Le Mont Saint-Michel.
Eh ben c'était intéressant.
Non, mais
c'était vraiment très intéressant.
Ok, allez Caro, justement, t'as la parole.
Allez, c'est parti. Eh bien moi, dans mon tiroir, il y a quoi? Il y a un pull de Noël.
Oh non, on a pensé à toi parce qu'on en a vu plein en ce moment.
Ah bah oui, c'est la période. Hein.
C'est parti.
C'est les fêtes de Noël, bien sûr, les fêtes de fin d'année. Et vous aussi, vous faites peut-être une journée du pull moche dans votre entreprise.
Oui, tout à fait.
Oui, question l'équipe, donc tous? Non?
Si,
toi, Flo, tu vas
c'est prévu. Moi, j'ai entreprise. Mais il est imbattable, mon pull de Noël.
Oh, ah oui, bon, c'est quoi?
Je pense qu'on va le faire.
C'est un bonhomme de neige avec une carotte.
Oui, il est déjà venu, il a une carotte.
Oula, j'ai eu peur.
Turgescente.
J'ai eu peur. Elle est en haut, la carotte, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Ok, d'accord.
Elle est très en forme ce soir, Caroline.
ça va pas du tout. Bon, bref, alors, et peut-être que même dans votre entreprise, vous faites aussi le Secret Santa. Ça, c'est pire que tout.
Ah, je sais pas ce que c'est.
C'est le tirage au sort pour offrir un petit cadeau à un collègue. Bon, il y a toujours ce collègue qui a pas compris que tu peux pas faire de cadeau à 30 euros, hein, Benjamin. Oui. Et puis, il y a aussi Antoinette de la Comta, alors qu'il va voir adopter ses origines ch'ti toute l'année. Vous avez pas trop envie de lui faire de cadeau et vous tombez sur elle. Bon, pas de chance.
Contre,
bref, vous êtes à bout en fin d'année.
On fait au boulot, mais on interdit les mugs. Parce que tout le monde achète des mugs.
Ah, mais oui, c'est ça, ou le thé.
Oui.
Voilà. Bref, bon, vous êtes à bout en cette fin d'année. Mais au Laker, il y a le pull de Noël, cette journée où l'on porte un pull affreux. Bon, certains s'habillent moche toute l'année, donc c'est leur journée. Il passe un petit peu inaperçu, mais...
Je ne vois pas pourquoi tu me regardes, Caroline.
Oui, t'es insistante, Caroline.
J'ai mis un pull pour toi.
C'est vrai qu'il est très beau, ce pull parfait. Bon, le pull moche, ça vient d'où? Ça vient d'Angleterre, où les hivers étaient très rudes et les gens tricotaient.
En même temps, les goûts anglais,
Voilà, 19e siècle, c'était un petit peu kitsch, mais ça s'est hyper démocratisé par les films, en fait, comme Bridget Jones. Voilà, les séries US et tout. Donc, c'est quoi votre pull de Noël, à vous, équipe?
Alors, c'est normalement, c'est tricoté de la grosse maille. Il y a plein de couleurs.
Toujours les mêmes trames qui se répètent. Ouais, une petite frise en général.
Et un peu de neige, un peu de.
Bah ouais, un petit truc Noël quand même. Un petit truc drôle. On voit, il y en a des Star Wars, il y en a des.
Avec des gros yeux qui.
J'aime bien les reines.
Enfin, les reines.
Ouais, les reines. Ouais, il y en a avec des reines.
Avec des grandes cornes.
Avec une grosse tête de reine, du coup. Un gros nez rouge.
Ah là là, voilà. Il est en train de nous montrer.
Dieu,
ah là là.
Avec un décolleté.
Ah oui, d'accord, c'est
j'ai
toi,
jamais
d'accord.
Vu.
Avec des seins.
Bon, tout le monde a le droit à son pull de Noël. Oui. C'est ça le principal.
Très bien.
Nous, on fait le déguisement, en fait, complet. On vient déguiser.
Ah ouais.
À déguiser quand même.
Oui.
De haut en bas.
Ah
quoi.
Oui.
Ah bah.
Et toi, tu fais quoi?
Je sais pas, moi, je m'étais emballé de papier cadeau.
D'accord.
Pas mal.
C'est marrant. J'ai une collègue, elle est venue en sapin de Noël.
Ah oui, c'est pas mal non plus. Donc c'est, oui.
Mais vous arrivez à travailler okay. Sinon le.
Ah oui, on a les photos en plus. D'accord.
Ah, c'est pas mal. Hein.
Très bien. Je sais pas, oui, c'est ça, oui. En attendant d'être déballé. Très bien. Et ben, c'était vraiment très intéressant.
C'était vraiment très intéressant.
On va retrouver le jeu du Graal. Vous allez avoir 2 minutes pour trouver une série télé grâce à des indices. Vous jouez de chez vous en nous donnant le plus rapidement possible le titre de cette série sur le chat de radio-g.fr. Salut! Partons à la rencontre d'une série. Nous voilà dans une réunion bien spéciale qui va vous donner des indices. Vous avez 2 minutes pour retrouver le titre de cette série. Soyez le plus rapide. C'est parti.
Nous devons nous allier contre ceux qui menacent le royaume. Je vous propose de reconnaître la femme ici présente comme votre reine.
Je suis la dernière héritière de ma lignée. Je veux le pouvoir, mais je veux aussi la paix. J'accepte votre offre.
Je sais que ma famille a commis des crimes, comme tuer le roi ou faire exploser le grand septuaire. Mais pourquoi pas nous allier en effet ?
Votre famille a tué mon père, mon frère et ma mère. Votre sœur a emprisonné et torturé mon frère. Vous m'avez forcé à vous épouser, puis vous m'avez abandonné.
Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. Je n'ai pas participé au massacre de ma famille. Je vous ai protégé du mieux que je pouvais. Je suis désolé pour tout ce que vous avez souffert.
Assez de disputes. Nous sommes là pour nous entendre. Nous avons un ennemi commun.
Il y a autre chose que vous devez savoir. Vous n'êtes pas la dernière de votre famille. Vous êtes ma tante et j'ai aussi un droit au trône.
Eh ben punaise, voilà le bordel. Les jeux ne sont pas finis. On n'est pas couchés.
Avez-vous trouvé le nom de cette série de 2011? Encore un instant avant d'avoir la solution. Il fallait bien sûr retrouver la série Game of Thrones. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Retrouvez-nous sur Question Graal sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. C'était le Graal à retrouver sur radio-g.fr. Vous l'aviez trouvé autour de la table. Bravo, Game of Thrones, très bien. Par contre, ça fait mal, hein, 2011, c'est ce que vous disiez.
Bah, ce qui fait mal, c'est la fin, surtout.
Ça date.
Enfin, la fin de la série.
La fin de la série était pas bien.
Ça fait mal quand même.
C'est
pas bien du tout.
Elle est pas bien, la fin de la série. Non. Bon, d'accord. Bah, écoute, on va refondre le trône une deuxième fois. Allez, donc, vous pouvez retrouver le Graal sur la rubrique, Podcast Plus sur le site radio-g.fr, également dans Topette, du lundi au jeudi à 18h10 sur Radio G. Vous êtes toujours dans DMT. Dans un instant, on retrouvera les chroniqueurs avec leur nouveau tiroir. Mais avant, on va parler un peu de musique. Enfin, de musique. Surtout en écouter. Alors, ça devient lassant. On a gagné ce week-end. Qu'est-ce qu'on a gagné ce week-end?
Ouais,
l'Eurovision des enfants.
Oui, on a gagné l'Eurovision Junior. Pour la combien de fois consécutive?
Troisième fois
consécutive. Ça fait 3 ans qu'on gagne alors qu'on est ratatiné chez les adultes. Et c'est les enfants qui gagnent. Alors,
bravo. Faudrait qu'ils aient chanté chez les adultes, du coup.
Oui, il faudrait qu'on emmène les enfants chez les adultes, effectivement. C'est Zoé Closure qui a gagné. Je vous propose d'écouter son titre Cœur.
On n'est pas obligé.
Et bien sûr, maintenant, c'est à vous de voter sur le site radio-g.fr pour savoir si on écoute la chanson en entier.
Mon cœur bat en rythme, il palpite si vite quand je chante pour toi. Je veux que le monde entier nous voie exister quand je chante. Je me lève pour voir le monde. Je m'élève, je rêve, mon cœur s'inonde. Ça traîne, je regarde la montre. Je veux que ça s'éteigne. je le montre. Je regarde mes rêves tout le temps. Je vais croire ça me hante. C'est pour ça que je chante. Mon cœur bat en rythme, il palpite vite. Quand je sens de aïe aïe aïe, je veux que le monde entier nous voit exister. Quand je sens de aïe aïe aïe, voilà. Ah, c'est comme si comme ça là. Avance vers la victoire.
Oh non, vous avez coupé.
Oh,
la pauvre Zoé qui avait gagné. Bon, tant pis, on est à 100%. Ok, les auditeurs, tant pis.
Bah, ah, si c'est ça qui gagne, j'imagine les autres.
Oui, c'était assez compliqué, effectivement. Vous êtes toujours en DMT sur Radio G, l'émission qui vous donne le pouvoir. Rendez-vous sur le site radio-g.fr sur votre smartphone ou votre ordinateur. Vous pouvez y accéder à la page des votes pour pouvoir juger en temps réel les chroniques qui vont suivre. Ouvrons à nouveau les tiroirs de nos chroniqueurs. On repart avec Olivier.
Oui, alors...
On t'a réveillé. On t'a réveillé, Olivier.
C'était brusque.
J'ai trouvé un ticket de cinéma il n'y a pas longtemps. En fait, je suis allé voir un film.
Oh, c'est original.
Je suis allé voir un film de 1957 que je ne connaissais pas. C'est considéré comme un des meilleurs films de l'histoire. Et effectivement, c'est un film extraordinaire. Ça s'appelle 12 hommes en colère. Je sais pas, est-ce que vous l'avez déjà vu? Non. Alors, 12 hommes en colère, en colère.
C'est en noir et blanc.
12 hommes en colère.
C'est la scène.
Donc c'est un huis clos. C'est très théâtral. D'ailleurs, c'est tiré d'une pièce de théâtre. C'est un jury de 12 hommes qui doit délibérer sur le sort d'un individu de 18 ans accusé de parricide. Donc ils doivent tous, à l'unanimité, décider s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable. Et donc dans les 12, il y en a un qui émet une réserve. Et donc tout le but du film, ça va d'être, est-ce que finalement celui qui est contre va céder, ou est-ce qu'il va petit à petit réussir à persuader les autres de l'innocence. Donc c'est un film incroyable sur l'égalité devant la justice, sur la présomption d'innocence. Ça reflète aussi pas mal d'aspects philosophiques et d'aspects sur le droit, sur le jugement, sur la notion d'objectivité. C'est-à-dire que notre vécu, notre ressenti qu'on a, nos sentiments, peut influencer sur le jugement.
Mais en c'est fait, filmé si, dans si un tribunal, veux,
a...
c'est ça?
Oui. En fait, il y a quelqu'un qui est accusé de parricide. Il y a un du jury qui lui-même a un fils, il ne s'entend pas avec son fils. Et donc le fait qu'il ne s'entend pas avec son fils, ça influence sa décision ou son jugement, ça altère son jugement.
D'accord.
Donc c'est ça en fait, c'est la notion de justice et d'objectivité qu'il faut avoir. Et puis c'est aussi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est super important de voir la puissance du débat, voilà, qu'on doit avoir, de discuter ensemble, c'est peut-être se remettre en cause petit à petit. Et c'est aussi un film sur une personne seule peut provoquer un changement d'avis vis-à-vis des autres. Et c'est un film avant tout sur la discussion.
Il fallait l'unanimité de toute façon pour passer, donc une seule, ça bloquait tout à chaque fois.
Oui, exactement. D'accord. Non, mais c'est un film qui fait beaucoup, beaucoup réfléchir, surtout en ces temps où chacun a son avis et chacun réfute l'autre en disant que il a tort et tout. Mais là, pour une fois, on cherche un consensus, on discute et on arrive vraiment à une.
Et c'est pas chiant.
C'est pas chiant du tout. Ça dure une heure et demie, mais c'est passionnant.
D'accord.
Alors, l'acteur principal, c'est Henri Fonda. Qui est extraordinaire et si vous pouvez vous le procurer en DVD Blu-ray, allez-y parce que c'est un des 5 meilleurs films de l'histoire, mais c'est 12 hommes en colère.
En colère. Voilà. Si vous êtes intéressé, et bien en tout cas ça intéresse nos auditeurs.
C'est vraiment très intéressant.
Caro.
Ouais. Oui, et bien moi dans mon tiroir, qu'est-ce que j'ai?
Les slips de Noël.
Eh bien, j'ai un petit parfum bien caché.
voilà, que j'ai trouvé.
Oh, et pourquoi cachez-vous ton parfum.
Bah, dans mon tiroir. Ah,
dans son tiroir, évidemment.
À côté de toutes les choses dont j'ai fait la chronique depuis le début, bien sûr. Ouais. Et pourquoi un parfum ? Eh bien, c'est l'article le plus vendu à Noël. Bon, en vrai, c'est les DVD, mais j'allais pas faire une chronique sur ça.
Ouais, alors, non. Peut-être pas forcément maintenant.
Ouais, bah, ça reste encore les produits culturels, de manière générale. Ça, mais bon, alors, qui de vous a commandé un parfum à Noël ?
Oui, même ma mère achète toujours un parfum.
On va recevoir ça. Toi, Olivier ?
Toujours.
Ok. Là, alors,
pas de pub, on n'a pas le droit.
C'est quoi ? Bah,
si, parce que je vais dire des noms après.
C'est quoi ? Blue Chanel ou...
Eh bah, exactement. Eh bah, tu sais quoi ? T'es dans le top 5. Eh bien, oui. Le parfum le plus vendu pour les femmes, c'est le J'adore de Dior. Okay. La vie est belle de Lancôme en deuxième position. Et enfin, le troisième, c'est le numéro 5 de Chanel, qui reste un classique.
Mais pas l'autre cologne.
Non, pas le cologne. On veut quand même quelque chose qui tienne.
Scorpio de...
Pas le Scorpio de supermarché.
Le Axe, non ?
Faut pas offrir ça. Oui, c'est vrai. Mais le Scorpio marche bien quand même. Mais faut pas. Faut éviter. Et pour vous les hommes, donc c'est le bleu de Chanel. Donc Olivier, t'es dans le top 3 tendance.
J'imagine qu'il y a le bal de Gauthier aussi.
Eh bien non, le deuxième c'est Terre d'Hermès. Et le troisième c'est One Million de Paco Rabanne. Oh, One Million, ouais. On le sent. Sandra, il y en a beaucoup qui le portent. Oui, c'est quoi vos parfums de Lancôme. Ah, c'est vrai,
Belle,
t'es numéro 2. Et vous les garçons ?
C'est quoi, oui ?
Flo ?
Flo, c'est quoi ton parfum ? Armani.
Armani, oui.
Ah, Armani. Alors, je crois qu'il y a Armani, mais c'est sport, je crois. Bon, bref. Il est dans le classement. Toi, Joe ? Yves Saint-Laurent ? Tout simplement.
Lequel, le Saint-Laurent ?
Ah, la Nuit de l'Homme. Il est trop bien, celui-là. Et toi, Bruno ?
D'accord, aucune idée. Je mets
le savon.
Ça va être ça.
Le déo classique.
Le Marseillais sans odeur.
Ah non, mais c'est pas possible. Voilà. Bon, si, bah, ça fait une idée cadeau pour Bruno cette année. Il faut lui mettre un.
Ouais, les boss, ouais.
Ou les Calvin Klein, ouais, qui étaient un peu unisexes, ils étaient particuliers.
Ouais.
Bref, alors, les origines du parfum, eh bien, c'est tout simplement les Égyptiens qui avaient inventé un système de macération des fleurs. Pour pouvoir, voilà, c'était pour histoire de faire un petit point intelligent.
Oui, c'est bien. Question.
Voilà, bah, mais
ça
pas du tout.
Chats,
il y a le parfum concret aussi, tu sais le
parfum concret, tout
oui,
à
tu
fait.
Sais.
On peut créer un parfum.
Oui, non.
Tu sais, celui en petite boîte là, qui se.
Un peu solide que tu fais. Ah ouais, c'est spécifique. Ouais, c'est un peu à l'ancienne,
c'est
ça. Mais c'est vrai
sec,
que c'est sympa.
Ça, c'est un truc sec.
C'est un peu pommade, mais très dur. Enfin, il faut le faire fondre un peu entre les mains et se le mettre à des endroits particuliers pour que ça sente.
Du coup, ça se conserve bien.
Mais quoi ?
J'ai une question, Caro.
C'est dans le coup, Joe. Qu'est-ce que tu crois ?
Quand tu vas chez Sephora ou Nocibé, je sais pas, par Yono, t'as toujours eau de toilette et parfum.
Oui.
Et parfum est toujours plus cher que eau de toilette.
Le parfum, c'est quoi la différence ? Bah, c'est la concentration. Oui, en fait, il tient beaucoup plus longtemps.
D'accord.
En fait,
l'odeur
une
eau
de toilette, ça va tenir une demi-journée. Un parfum, ça va tenir la journée.
D'accord.
Il suffit de peu de pchit pour que ça passe.
Alors, sur le chat, on a. Alors, qui c'est qui dit Drulino. Il a Allure Homme de ses Chanel Sport. François, c'est Invictus. Invictus, effectivement.
Ah, Invictus, c'est de qui ? C'est de Paco Rabanne ? Non ?
Ouais, c'est Paco.
Paco Rabanne, ouais, je crois, ouais. Avec les super pubs, voilà, un peu viril.
Ah bah, en ce moment, on va être bombardé de pubs, hein.
Et oui, le Allure Homme Sport de Chanel, il est bien.
Les acteurs ou les mannequins qui font la pub.
Oui, c'est ça, ouais.
On a influencé.
Tout à fait. Et vous, il y a un parfum qui vous a marqué ou une pub aussi ?
Bah.
Ça marchait plus dans les années 90. Le quoi ? Ah
après,
ouais, c'est vrai, on la voit beaucoup
après,
avec la musique.
J'avoue que les pubs de voilà.
Bah, non. Les pubs de Chanel sont toujours.
Les Chanel, elles sont très belles.
Ils arrivent toujours
aussi
à trouver.
Ah, parce qu'il y avait Gaspard Ulliel.
Gaspard Ulliel ou Timothée Chalamet.
Les Gauthier,
ah, bah,
tu peux que acheter ça.
Ah, oui, c'est ça.
Les Gauthier sont belles. Aussi. Les pubs de Gauthier sont vraiment très bien faites aussi.
Ah, oui, ouais.
Mais
c'est toujours hyper imagé.
Ouais, sont assez jolies.
Sont assez jolies, sont bien.
C'est vrai que c'est beaucoup
toujours un effet de truc très long, très.
Oui, Gauthier, c'est vrai que c'est classique aussi. Avec les petites silhouettes. C'est le premier d'ailleurs qui avait travaillé ses silhouettes avec vraiment d'autres collaborateurs pour vraiment faire quelque chose d'unique et pas juste simple avec de l'eau qui sent bon.
D'accord. Voilà. Pour finir, juste le parfum, c'est sur la peau ou sur les vêtements ?
Alors, sur les vêtements, ça peut tâcher. Ça peut mettre une marque,
mais
donc on fait attention.
De...
Mais pour que ça ressorte, il faut sur la peau,
c'est
à des endroits stratégiques, derrière les oreilles, au poignet.
Sur
les jambes, ça marche pas trop.
Oui, non, mais après, ça dépend. Voilà. Non, ça répond à ma question. Ouais. En tout cas, c'était vraiment intéressant.
C'était vraiment très intéressant.
Sandra, est-ce que tu as autre chose ?
Alors, oui, j'ai une deuxième petite chronique.
Vas-y.
Donc,
Alors, si je vous dis qu'il m'arrive d'être un peu timbré, de quel objet s'agit-il?
Bah de toi, oui.
Bah non, quand même, merci.
Ça, quand même.
Une enveloppe.
Timbré, bah, je sais pas, la lettre, la carte postale. La...
Voilà, donc, bah, en fait, c'est tout simplement le timbre, en fait. J'ai mis la main sur une, ma petite collection de timbres, bien modeste.
Tu es philatéliste.
Bah,
ah, ouais.
J'ai un peu de collection de tout, on va dire. Bon. Et là encore, nostalgie, hein, car on le sait, les timbres sont en voie de disparition. Alors, non, j'ai pas décidé de vous raconter, en fait, l'histoire des timbres, mais je me suis demandé, en fait, quel était le timbre le plus cher, et je suis tombée sur l'histoire du timbre le plus cher au monde.
Oula.
Donc, il s'agit du 1 cent Magnanta. C'est un timbre créé en 1856 par la Guyane britannique de l'époque. Il est unique en son genre. On le nomme le Mona Lisa de la philatélie.
Oh, oui. Oh.
Sa rareté en fait le timbre le plus cher du monde parce qu'il est estimé à 8 millions d'euros quand,
ah,
même.
Ah oui, t'as intérêt de bien livrer la lettre, non?
Et c'est un petit bout de papier rouge, tout simplement, avec un voilier dessiné dessus. Et les mots British, Guyana et postage sont inscrits. Avec la devise « Nous donnons et espérons un retour ». C'est donc le timbre le plus rare au monde et il est même comparé au joyau de la couronne.
Mmh.
Il n'en reste plus qu'un seul, donc c'est pour cette raison. Il servait à estampiller un journal local qui s'appelait la Royal Gazette. Et ils ont presque tous été jetés, sauf un qui est passé en fait de main en main et de propriétaire en propriétaire. Donc d'abord, un jeune garçon de 12 ans en fait, trouve le journal timbré chez son grand-père, mais le timbre, en fait, il est abîmé. Donc il se dit « Il n'a pas de valeur ». Et il est revendu, ah ben voilà, à 35 centimes.
Mmh.
À un collectionneur qui lui-même l'a revendu à un autre philatéliste. Voilà. Puis le timbre atterrit chez le comte Philippe de la Renotière, qui meurt en 1917, et le donne à un musée allemand. Le timbre est ensuite saisi par la France pour réparation liée à la guerre, en 1922, et il est mis aux enchères. Du coup, un Américain s'en empare, pour 34 000 euros à l'époque, en 1980.
Mmh.
Et ensuite, il est racheté quand même à 93 500 euros.
Ah, ça monte
euros.
Bien quand même, hein.
Ouais, ça monte, hein, de plus en plus. Pour finir, en 2021, il vaut 8 millions d'euros. Et c'est l'objet le plus cher au monde par rapport à son poids. Alors, je vous souhaite d'être bien timbré. Ça peut faire des miracles parfois.
Bah oui, tu m'étonnes. Est-ce que vous envoyez encore des cartes ou des cartes postales pour ne serait-ce le Nouvel An ou chose comme ça? Non, c'est fini, ça?
Bah oui, si, si.
Si, toi, ça t'arrive un petit peu?
Oui,
j'essaye, mais bon, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est de moins
mais
en
c'est vrai
moins
qu'il y a de moins en moins.
De moins en moins,
ouais.
Effectivement. Bon, un petit bonjour à Raphaël, qui était dans l'émission avec nous, l'émission précédente. Lui, il dessine maintenant. Il fait des cartes postales en dessin, des croquis d'Angers, c'est magnifique.
Elles sont magnifiques.
Et ça fait des belles cartes postales, et c'est de bonnes idées pour pouvoir envoyer au Nouvel An ou à offrir. Voilà. Allez, elle a eu son jingle.
Ouais.
Très bien, parfait. Et bien maintenant, c'est à Joe.
Ça me permet de revenir sur un truc. Vous avez encore oublié vos casques. Toi, t'en avais pas, donc ça va. Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi, pour vous sur ma deuxième chronique? Je meuble le temps de retrouver. Ah ouais. Non, j'ai retrouvé dans mon tiroir une cartouche de jeu et je vais vous parler du jeu It Takes Two. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non.
Non. Très bien. Bon, je dis ça, mais ça m'étonne pas, hein, vu le public. Donc c'est un jeu qui est sorti en mars 2021 et en fait c'était il avait gagné le jeu l'award du meilleur jeu de l'année. Et c'est fait par Azelite Studio, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est ceux qui avaient fait A Way Out pour avant. Et surtout, c'est un jeu en coopération. Alors, je sais que vous n'êtes pas très fan de jeux vidéo autour de la table, je le sais, donc je vais essayer de faire.
En coopération, ça veut dire qu'on est tous contre le méchant et on n'est pas l'un contre l'autre, c'est ça?
Non, en l'occurrence, tu joues les deux ensemble, mais tu dois jouer constamment à deux. Tu peux pas jouer tout seul.
D'accord.
Donc, tu joues vraiment tout le long à deux. Et là, en gros, pour faire rapidement l'histoire, c'est deux parents qui vont divorcer. Et ils ont une petite fille entre les deux et ils lui ont pas encore dit, mais la petite fille, en gros, elle est triste de les voir pas bien, et en gros il va se passer quelque chose, un ressort scénaristique qui fait que ils vont être enfermés tous les deux dans deux petites poupées que la petite fille avait faites, et on va jouer ces poupées pour que en fait elle sorte de cet état là et qu'elle retrouve leur corps normal. Et en fait c'est juste un prétexte pour que vous puissiez vous retrouver dans des mondes un petit peu féeriques, fantastiques, entre mi-réel et mi mi-fantastique. Et en soi, le jeu est extrêmement bien. C'est-à-dire que c'est dur de faire des bons jeux à deux, je trouve. C'est-à-dire pas des jeux qui sont en ligne ou quoi, à plein de gens. Là, c'est vraiment une aventure que vous faites à deux et qui est très souvent à destination des couples parce que ça fonctionne très bien, même pour des gens qui où il y en a un qui joue beaucoup et l'autre qui joue moins. Donc ça se trouve très souvent. Et en soi, ouais, le jeu est très très cool parce que il est très accessible déjà. Et en plus de ça, il a un vrai univers à lui. Donc il y a plein de tableaux différents. Vous allez à un moment arriver dans le jardin de cette famille. Et en gros, à chaque fois, on va avoir des petites notions sur leur passé, des anecdotes sur eux et tout. Alors que en soi, ça reste deux parents qui ne s'aiment plus, okay, qui le disent directement.
Alors, je pense que tu nous as complètement perdus autour de la table. Par c'est contre, au niveau du chat, il y a des gens qui connaissent. Il y a François qui dit ah oui, il aime vachement bien le jeu. Et Benjamin il dit oui, c'est le jeu en couple aussi. Il aime ça.
C'est voilà. Un jeu vidéo.
C'est un jeu vidéo. Oui, ouais. Oui, ça y est.
C'est un jeu vidéo. Je l'ai trois fois. Il faut juste pas écouter. Il faut juste écouter.
C'est bon. Bon, allez, tu peux te mettre un intéressant.
Ben d'accord.
C'était vraiment très intéressant.
Ça compte pas, il m'a coupé.
Allez, c'est parti. On va se refaire un petit Graal. Allez, c'est reparti. Allez. On joue. Alors cette fois-ci, il va falloir découvrir une chanson avec ouh, juste les paroles.
Oula.
Jouez avec nous sur le chat de radio-g.fr en donnant vite la réponse. Attention, c'est pas forcément une chanson récente. C'est parti. Salut. Partons à la rencontre d'une chanson. Grâce à la lecture des paroles, vous allez devoir trouver le titre et l'interprète. Soyez le plus rapide. C'est parti.
J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage, j'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes, et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois, je les dessine encore. Elle fait partie de moi. Je l'ai connue trop tôt, mais c'est pas de ma faute, la flèche a traversé ma peau. C'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal, mais je connais l'histoire. Il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je peux mourir demain, ça ne change rien. J'ai reçu de ses mains le bonheur ancré dans mon âme, c'est même trop pour un seul homme. Je l'ai vu partir sans rien dire.
Avez-vous retrouvé le titre et même l'interprète de cette chanson de 2003 qui a été reprise en 2023 en duo avec Cœur de Pirate? Je vous laisse encore quelques secondes.
Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute, la flèche a traversé ma peau, c'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal, mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard, dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre.
C'était en effet la chanson de Kyo, Dernière danse. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Retrouvez-nous sur Question Graal sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Bravo à François et à Benjamin sur le chat. Et puis bravo aussi autour de la table, vous aviez trouvé également. C'est parfait. Allez, je vais vous faire quelques petites brèves maintenant parce que dans mon tiroir, j'ai trouvé les journaux locaux. Et j'ai vu qu'un personnel d'un collège de Cholet, il a été viré cette semaine. Est-ce que vous savez pourquoi il a été viré, ce personnel de Cholet?
De la drogue?
Non, pas de la drogue. Alors, pas d'attouchement, non?
Il a pas de mouchoir.
Non, pas de mouchoir. Ah, ça dépend pourquoi faire, mais.
Il se masturbait.
Non, alors. Alors, pourquoi il a été viré, d'après vous?
Il a sorti une arme, il a.
Non.
Je sais pas.
Non, il a rien fait. Dans l'enceinte de l'école, il a rien fait.
C'était un quoi, un surveillant?
Alors, oui, un personnel. On sait pas trop, en fait, ce qu'il faisait dans l'école, mais il travaillait dans l'école.
Il mettait quelque chose dans la bouffe, la cantine.
Non, il a rien fait dans l'école.
Rien à voir avec le collège?
Rien à voir avec le collège.
Okay.
Rien à voir avec
le collège. Il a un truc à sa vie perso.
Une photo, bi sur un réseau.
Il met des photos,
oui.
Des vidéos.
Il
se fait, il des
a fait un porno.
Oui, voilà. Il a effectivement fait une sextape sur un sexe. Ah bon, d'accord. Et en fait, ce sont les élèves qui l'ont
retrouvé. Révélation. On a une très bonne blague dans le chat.
Il a fait grève. François dit il a fait grève. Oui, il l'a viré parce qu'il a fait grève. Non, mais effectivement, il a fait. Il s'est amusé un petit peu à se filmer. Il s'est mis sur une plateforme de site pornographique. Et les collégiens, parce que c'est un collège quand même, l'ont retrouvé. Voilà. Et du coup, moi, je trouve ça un petit peu scandaleux.
Les élèves.
C'est le scandale, c'est pas qu'il ait fait une sextape et qu'il l'ait fait sur un site pour adultes, c'est surtout que les collégiens fréquentent ce genre de site.
Bah oui.
On le
oui.
sait, évidemment. Oui. Mais de là à virer une personne, je suis désolé.
Faut mettre un masque.
Ouais, en tout cas, bref.
Ah, d'ailleurs, en parlant de Cholet, oui. En tout cas, c'est cocasse, c'est qu'ils font de la pub sur les panneaux publicitaires à Angers.
Oui, c'est vrai.
Les trucs aux arrêts de bus, là, j'en ai.
Pour dire que c'est Cholet, c'est bien.
Bah, Cholet, je sais plus c'est quoi le slogan, mais du coup, venez à Cholet, quoi.
Ah, venez à Cholet.
Bah, venez habiter à Cholet, du coup.
Bien, bah, oui, voilà. Hein, il y a des gens qui font des films. Bon, il y a plein de nouvelles choses sur Angers. On n'est pas obligé d'aller à Cholet. On avait parlé de l'épicerie des deux Paulines qui, malheureusement, avait fermé. On les avait invités à un moment donné. Bah, maintenant, c'est un nouveau magasin de produits frais de saison. Ça s'appelle Racine. Voilà, c'est au 22 rue Saint-Julien. Il y a une boutique de Pokémon qui va s'ouvrir place Saint-Bac.
Non, mais attends, ouais. On mange quoi chez Racine?
Pas qu'on mange, c'est des produits de saison. Donc c'est voilà. Okay. Et locaux.
En ce moment, c'est des racines
avec un Y, Racine. Donc Pika Plasma, voilà. Pokémon, Pika une Plasma, rubrique Pokémon. Éphémère de Pokémon. Voilà.
Ok, bah, dans deux mois, il n'y avait plus.
On y vend des cartes éphémère. Pokémon. Oui, et puis tous les goodies qui sont autour des Pokémon.
C'est pour Benjamin, ça.
Ok.
Il y a des cartes Disney ou pas?
Il y a un nouveau Franprix qui va s'ouvrir rue du Cornet.
Ah, ça c'est cool.
Voilà,
ça,
le 1er décembre, c'est passionnant.
Et il y a une.
C'est bien parce que j'ai toujours 100%, hein, donc les gens sont passionnés.
Un petit Franprix.
Hein. Et j'ai la Pizza Woody's qui arrive à Angers. C'est une chaîne déjà présente en région parisienne et ça arrive boulevard Bédier. Voilà. Ah, 50% d'un coup.
Mais c'est quoi Woody's? On mange quoi? Des burgers?
Non, Woody's, c'est des pizzas.
Ah, c'est des pizzas, pardon.
Ouais. Bon, je sais pas, à la bibliothèque, on a trouvé des ossements
sous la bibliothèque.
Ah oui,
sous
ça
la
c'est
bibliothèque.
Quand même, c'est pas mal ça.
Voilà.
Quand même.
Sauf que donc c'était pas une bibliothèque, mais c'était donc un cimetière du 11e siècle au 14e siècle. Donc ils vont retrouver quand même un certain nombre. Vous voyez, on n'a pas fini, donc tout était repoussé. C'est coupé.
Oh, c'est coupé. Oh,
c'est pas long. Parce que j'avais une île qui était vendue. C'est trop tard. Oui, d'accord. Ok, très bien, très bien. Allez, rubrique.
Perdu la Franprix.
Ouais, je crois que c'est Franprix qui a joué.
Une petite chronique mystère, Caro?
Oh, bah allez. Du coup, quel est le rapport avec ce que j'ai dans mon tiroir? Parce que dans mon tiroir, j'ai des plantes carnivores, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ok, mais pourquoi pas? Je mets
tout
la main, je me fais piquer, bim. Qu'est-ce
Alors,
que c'est une
quoi,
plante carnivore? Allez, bien, ce sont des végétaux capables d'attirer, de capturer et de digérer des proies
oui,
animales.
Là, ça va.
Principalement des insectes, des acariens et autres petits invertébrés.
Mm-hmm.
Ça va vraiment être ça la chronique ou...
Bah oui. Bah, on va voir si t'es stoppé ou pas. Hein. Ça va être passionnant. Hein.
Ah c'est ça le but.
Alors, c'est ça le but, c'est que tu sois stoppé.
Peut-être que j'essaye de faire une voix. Je vais essayer Bourville. Cependant.
Non, mais c'est peut-être intéressant. Elle parle de quoi cette chronique?
Bon, ces plantes ne sont pas invulnérables. Elles peuvent souffrir d'indigestion si elles consomment trop de proies à la fois. C'est le cas notamment des saracénies. Des plantes carnivores qui possèdent des feuilles en forme d'une d'urne ouverte.
Ok.
Ces feuilles sont tapissées de poils orientés vers le bas qui empêchent les insectes de remonter.
D'accord.
Une fois qu'ils sont tombés dans le piège, le fond de l'urne contient un liquide digestif.
Ça y est, tu as été stoppé.
Ça s'arrête à liquide, hasard.
Ok.
Je ne crois pas.
Ah bon, elle a été stoppée comment Ah moi, j'étais qu'à 75, moi.
Ah oui, moi aussi.
Non, on est passé à 100.
Alors, pour ma défense, en fait, c'est parce que quand je vois ton téléphone, il est très rouge par rapport aux autres qui est orange.
Ah ouais, c'est
ah
vrai.
Oui, donc
ah
non,
ouais, c'est vrai.
Tu n'étais pas bloqué.
C'est vrai.
Vas-y, continue.
Bon, allez, en plus, c'est une vraie, vraie belle phrase. Ouais. Le fond de l'urne contient un liquide digestif.
Ah, ça y est, t'es bloqué, désolé.
Une contrepartie.
Oui, non.
Bon, en tout cas, elles peuvent avoir des indigestions.
Ah, voilà.
Ok, Olivier.
Ouais.
Oui, ça va être long, hein. Vous avez sans doute entendu. Bah oui, je sais pas. Vous avez sans doute entendu ou employé l'expression baisser les bras pour signifier que l'on renonce à quelque chose ou que l'on se décourage face aux difficultés. Mais savez-vous d'où ça vient cette expression si familière?
Ah,
bah, faut remonter à plusieurs millénaires pour découvrir l'origine. Alors, l'expression baisser les bras tire son origine de l'ordalie. Est-ce que vous savez ce que c'est une ordalie?
Non.
Donc c'est une forme de procès à caractère religieux qui consistait à soumettre un suspect à une épreuve douloureuse, voire potentiellement mortelle, dont l'issue, théoriquement déterminée par une divinité ou Dieu lui-même, permettait de conclure à la culpabilité ou à l'innocence du dit suspect. Donc l'une de ces épreuves consistait à garder ses bras en l'air le plus longtemps possible. Et celui qui les baissait, le premier, était considéré comme le menteur ou le coupable. Cette épreuve aurait été instituée par Charlemagne et aurait été inspirée par un épisode biblique où Moïse devrait maintenir ses bras levés pour assurer la victoire des Israélites contre les Amalécites. Donc c'est cette épreuve que viendra l'expression « baisser les bras ».
D'accord. Bah écoute,
bravo.
il l'a fait.
C'était vraiment très intéressant.
Bravo.
Ouais.
Sandra, t'as quoi?
Alors, bah moi je vais parler du pissenlit.
Oh,
oh.
Donc le pissenlit est une plante connue et familière que l'on rencontre souvent dans les prairies, les jardins ou les bords de chemin. Bon, en somme, j'allais dire souvent si on habite à la campagne plutôt. Mais connaissez-vous l'origine de la signification de ce nom ?
Ben non.
Le nom français de pissenlit, qui apparaît dès le 15e siècle, fait référence à l'effet diurétique de la plante. En effet,
ça veut vraiment dire ça en fait ?
Oui.
On fait pipi au lit.
C'est ça. D'accord. Pissenlit, c'est, voilà, ça veut dire pisser au lit. Et c'est une plante détox en fait qu'on retrouve énormément dans tout ce qui est les ampoules détox et tout ça.
D'accord.
En pharmacie. Ah ouais. Donc, une expression qui n'est pas très flatteuse effectivement pour cette plante aux fleurs jaunes éclatantes, mais j'allais dire qu'il y a une vraie fonction en fait, qui est l'élimination des toxines.
Oui.
Heureusement, le pissenlit a d'autres noms plus poétiques comme dent de lion. Le pissenlit se consomme sous différentes formes, en salade, en soupe, en tisane, en sirop, en confiture.
Ah oui.
Et même en vin.
Donc, un vin de pissenlit.
Oui, je connais pas, hein, j'avoue.
Bah, du coup.
Il faut cependant faire attention de ne pas le cueillir dans des zones polluées, évidemment, ou traitées avec des pesticides, et respecter les doses recommandées pour éviter les effets indésirables.
Ok, très bien. Bah, c'est intéressant.
Bah, c'est des vertus.
Allez, rapidement, on va finir avec toi.
Alors, moi, j'ai une question pour vous. Les arômes naturels sont-ils vraiment naturels ?
Oh, bah si c'est marqué naturel, oui.
Alors, quand on achète un produit alimentaire, on regarde souvent la liste des ingrédients. Parmi eux, on peut trouver la mention arôme naturel qui nous rassure sur la qualité du produit. On imagine que l'arôme a été obtenu à partir du produit dont il porte le nom, comme la vanille, la fraise ou le citron. Mais est-ce vraiment le cas ? En réalité, la mention arôme naturel ne garantit pas que l'arôme provient du produit original. Elle signifie simplement que l'arôme a été fabriqué à partir de substances naturelles, comme des plantes, des animaux ou des micro-organismes. Ces substances sont ensuite transformées par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques pour obtenir la molécule aromatique désirée. Par exemple, l'arôme naturel de vanille est souvent issu d'un champignon filamenteux. Ainsi, l'arôme naturel de vanille n'a pas besoin de provenir de la gousse de vanille, qui est une orchidée tropicale, rare et coûteuse.
Ah, d'accord. C'est pas si naturel que ça, du coup. Très bien. Bah, écoutez, on va s'arrêter là, hein, je pense.
Moi, je voulais vous
parler. C'était sur quoi, ça?
Je voulais vous parler d'emboîtage.
Oui, ben non. On va laisser ça après. On va laisser ça après.
T'as bien commencé, tu.
C'est la fin de ce numéro de Dans mon tiroir, l'émission qui vous donne le pouvoir. Merci aux chroniqueurs du soir. Merci Florian.
Merci à tous.
Comment il s'appelle celui qui est à côté de toi? Tu dis. Il m'a fait un site. Non, mais alors, faut revenir plus souvent pour qu'on sache ton nom, ouais. Jonathan. Et Sandra.
Oui. Au revoir. Merci.
Au revoir Olivier.
Au revoir.
Au revoir.
Un petit au revoir comme ça.
Au revoir,
au revoir. Au revoir.
Bonne soirée.
Et puis au revoir à notre invité là-bas qui est tout sourire. Tu reviendras.
Il fait un petit coucou.
Puis la prochaine fois, prochaine fois, tu parleras au micro si tu reviens. Fais gaffe, hein, c'est très très dul. Alors, pour refermer nos tiroirs, eh bien, on va écouter la pause improbable pour terminer en beauté l'émission. Elle fut la doyenne des Français. Jeanne Calment nous a quittés en 1997.
Elle a chanté.
Elle avait quel âge, Jeanne Calment?
122
ans. Ah, 122.
Un petit peu plus de 122 ans.
Elle a menti.
Et à l'époque, un DJ a sorti un album avec la voix de Jeanne Calment. Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Oui, je m'en souviens tout d'un coup.
C'est absolument improbable et c'est ce qu'on va écouter ce soir. On vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve dans 15 jours, même heure et même endroit. Et n'oubliez pas, avec Dans mon tiroir, vous avez le pouvoir.
Bonjour. Je m'appelle Jeanne Calment.
My name is Jeanne Calment.
Je suis né le 21 février 1867 à Arles.
I was born in Arles on February the 21st in 1875. I am the oldest lady in the world. Did you have a good life?
J'ai eu la chance.
Hi, Mrs. Jeanne Calment, the oldest person in the world. How do you manage to stay?
stay so active. Watch your jewelry so charmed. You have lived through thing and things. You have lived through two and wars. You have met famous people. One more world, Mrs. Calmar.
Radio G 101.5 FM.